Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires. Un grand merci à eux.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bienvenue sur Backseat. Bonsoir le public, merci d'être là. Ça fait super plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour si vous nous regardez en direct sur Twitch. Bonjour si vous nous regardez en replay sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Backseat sur YouTube. Ça vous permettra d'avoir accès à toutes les prochaines VOD de toutes les prochaines émissions. Bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast, où vous avez la possibilité d'avoir la voix suave de nos chroniqueurs et chroniqueuses dans vos oreilles. C'est scientifiquement prouvé. Merci à vous d'être avec nous. Oui, c'est ça.
Ce soir. Ouais, nous d'être avec vous aussi.
Je suis très très bien entouré puisque je suis avec Léa. Salut Léa, comment tu vas?
Ça va bien. Je suis contente qu'Emeric Lomprey m'ait chauffé la chaise, mais je le soupçonne quand même d'avoir pété dessus. Donc voilà, mais ça va. Écoute,
Léa,
après Emeric Lomprey, ça va pas être facile.
Ouais. Tu es la fondatrice du média Popol.
Tout à fait.
Et ça fait plaisir de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Tu es également chroniqueuse donc sur Backseat. On est aussi avec Claire. Salut Claire.
Salut.
Ça roule?
Ouais, ça va.
Claire, tu es doctorante en sciences politiques, militante écolo et tu as été candidate NUPES aux élections législatives en 2022.
Tout à fait.
Ça fait plaisir de t'accueillir à nouveau sur ce plateau. Ça se passe bien les études?
Oui, bah la thèse.
La thèse, elle avance toujours.
Oui, en plus c'est l'hiver, donc c'est encore pire. Et puis contexte politique. Un peu lourd. Donc tout ça cumulé, c'est un peu dur. Je ne sais pas comment vous le ressentez tous, mais ce n'est pas une période facile. Mais ça va, on peut y aller.
Et on est aussi avec Malek, conseiller en communication politique et qui fait un podcast qui s'appelle... Autour de moi, ouais, c'est ça. Exactement. Comment tu vas, Malek?
Ça va, je suis fatigué. On est là pour être honnête, on va se dire les choses. Mais je suis content de vous retrouver. Et ouais, autour de moi, jour spécial en plus, parce que sorti d'un petit épisode aujourd'hui. Ouais.
Bah, parlons-en, parce qu'aujourd'hui donc, sort un épisode de ton podcast Autour de moi avec un invité, ni plus ni moins, que François Hollande.
Exactement.
Tu l'as enregistré juste après notre émission La Bellevilloise, c'est ça?
C'est ça, le lendemain. Pour rappeler le concept d'Autour de moi, c'est la première discussion où je demande à mes invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux. Et je me suis dit que c'était quand même intéressant de demander à un ancien président de la République pas parler de lui.
Bah ouais, tu lui as demandé de ne pas parler de lui.
Voilà.
Est-ce que tu as réussi?
Oui. Oui, l'idée aussi, c'est un peu qu'il se raconte à travers les autres. François Hollande m'a parlé de sa mère, ce qu'il n'a jamais fait.
Ouais, c'est
la dernière fois qu'il l'a fait, c'était en 2011 sur France 5. Donc ça remonte et je suis content de cet entretien. L'idée, ce n'était pas vraiment de parler politique, mais c'était vraiment de savoir qu'est-ce qu'un ancien président de la République... Quel est l'entourage d'un ancien président de la République? Et c'était très intéressant.
Ouais, c'est cool. C'était en audio ou c'était filmé aussi?
Format vidéo disponible sur YouTube, ma chaîne YouTube, Malek Délégué, et disponible aussi sur toutes les plateformes de podcast, évidemment.
Et donc, c'est sorti.
Exactement.
Et donc, c'est sorti aujourd'hui. Claire, on en parlait tout à l'heure avec Christophe et Emeric de la Fondation Abbé Pierre. Toi, tu as vu le biopic, je crois?
Oui.
Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film?
Je l'ai vu lundi dernier et ça m'a bouleversée, pour être très très honnête. C'est un très très beau film avec une belle distribution. En plus, Benjamin Laverne qui du coup joue Henri Grouès ou l'abbé Pierre est excellent. Et ça prend vraiment aux tripes aussi parce qu'on se rend compte que il y a une en fait le film c'est une série d'épisodes donc avec ce démarrage de l'hiver 54 qui marque le début d'Emmaüs et avec l'appel de l'abbé Pierre. Puis en fait, il y a une séquence, il y a plein d'autres séquences. Il y a aussi 96, l'église Saint-Bernard, où là aussi, c'était très clair que l'abbé
Pierre...
C'était
des sans-papiers, je crois, c'est ça?
Exactement. Ouais. Donc en fait, c'est aussi un moment où il a tenu bon sur l'humanisme et de dire, en fait, les sans-abri, y compris lorsqu'ils n'ont pas de papiers, bah, c'est quand même des humains qui ont le droit à un logement digne, qui ont le droit à ce qu'on les traite bien. Et c'est vraiment un film qui permet de voir... toute la profondeur du message politique que portait l'abbé Pierre et sa détermination jusqu'au bout, en fait, jusqu'à ces dernières années. Donc oui, si vous ne l'avez pas encore vu, je recommande. Et puis, donnez à la Fondation Abbé Pierre au passage.
Et n'hésitez pas à aller à leur festival le 15 et 16 décembre prochain au Bataclan. Tu l'as vu, toi, le biopic de...
Non.
Non, tu ne l'as pas vu, Léa?
Mais ça me donne envie, du coup.
Est-ce que ça vous dit qu'on parle de politique?
Ah, j'ai cru qu'on allait regarder.
Eh ben, on le regarde maintenant.
Allez,
c'est parti.
Vas-y, je suis chaud.
Allez, si ça vous dit qu'on parle de politique, c'est parti pour les sujets de la semaine.
Allez.
Alors, l'actu de la semaine. Excusez-moi, pardon, c'est un peu le bordel ce soir.
Non, mais applaudissez.
Applaudissements,
quand même.
Merci. Allez, oh, on vous a volé vos applaudissements, je suis désolé. Chers amis, ce soir, plein de sujets qu'on va aborder, notamment les inégalités en matière d'éducation.
Ben voilà.
Ça y est, on a eu le rapport PISA.
Lisa qui est tombée mardi 15 décembre. Tous les 3 ans, je rappelle que depuis 1997, ouais, dans l'OCDE, on évalue les jeunes de 15 ans en sciences, mathématiques et compréhension écrite. La première salve donc, de tests depuis le Covid a eu lieu et donc les résultats viennent de tomber. Et ils révèlent une chute historique du niveau des élèves français, une chute globale. Cependant, c'est une chute globale, hein, cependant. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les Français. Il n'y a guère que les Japonais et les Sud-Coréens qui ont des évaluations qui augmentent. Tous les autres pays de l'OCDE, ça baisse. Claire, c'est quoi ces classements PISA ? Pourquoi est-ce que ça fait tant parler chaque année ?
Alors, PISA, c'est Programme for International Student Assessment. Donc, c'est effectivement lié à l'OCDE. C'est une évaluation de l'ensemble des élèves, je crois, de 15 ans sur une série de 3 compétences majeures, et notamment les mathématiques. Donc, c'est un classement qui permet un peu d'avoir une estimation du niveau avec cette comparaison internationale, donc, qui est toujours compliquée à faire parce que les systèmes éducatifs sont très différents.
Bah oui.
Parfois, il y a
ça évalue quoi ?
Alors, il me semble qu'il y a culture scientifique, mathématiques et le dernier...
C'est l'écrit, l'expression écrite.
L'expression écrite, exactement. Donc, il y a 6000 jeunes Françaises et Français qui ont passé ce test et qui ont, du coup, contribué à ce classement de la France. Et effectivement, la France a perdu
Ils ont pris les plus
énormément.
Mauvais.
Énormément, ouais.
C'est pour ça. Ils n'ont pas pris les meilleurs, c'est pour ça.
Voilà, il faudrait faire une présélection.
Ah oui, mais oui.
Il faudrait faire des groupes de niveau. Pour déterminer qui a le droit d'aller passer le classement PISA.
On va en parler.
Il faudrait souffler l'idée à un certain Gabriel Attal.
Est-ce que c'est sérieux, les classements PISA, dans la communauté scientifique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est lu,
C'est
l'OCDE, parce que l'OCDE, c'est quand même assez sérieux. C'est pas des guignols, l'OCDE. Ils savent à peu près ce qu'ils font, d'habitude.
Non, il y a des critiques à la marge, mais globalement, c'est celui qui fait référence. Et c'est celui sur lequel les gouvernements ont l'œil pour essayer d'estimer un peu ce qui se passe. Après, c'est toujours compliqué. On évalue des compétences par rapport à quoi ? Par rapport aux besoins aussi d'un marché du travail. Enfin, il y a toute la question de, en fait, la vocation du système éducatif, elle n'est pas strictement aussi d'aller faire des bons travailleurs. Il y a aussi des aspects culturels, des aspects d'émancipation des systèmes éducatifs qu'on ne peut pas strictement évaluer dans un classement PISA. Et c'est sûr que une épreuve qui prend juste ces 3 compétences-là ne disent pas tout de comment s'éduquent et s'émancipent et deviennent adultes une génération de jeunes gens, quoi.
Il y a aussi le poids très fort des inégalités scolaires qui ressort dans ce classement PISA. En France, inégalités qui sont stables sur 10 ans. Et ça montre qu'en France, les origines sociales surdéterminent les performances des jeunes dans les 3 domaines en question. Autre chose intéressante, les élèves des écoles privées enregistrent un meilleur niveau que le public, mais à origine sociale égale, le public enregistre de meilleurs résultats. C'est intéressant ça, tu voulais nous en parler toi Malek de la question de l'enseignement privé.
L'enseignement privé parce que je sais pas si c'est juste un petit effet de mode autour de moi, sans faire de promo à mon podcast, mais je vois de plus en plus de parents se diriger vers le privé quand ils en ont les moyens évidemment, et même des grands anciens défenseurs de l'école publique qui finissent par dire en fait l'école publique est dans un tel état que, que pour sauver mes gamins, je vais les mettre à l'école privée. Donc, je ne sais pas si c'est juste un petit effet de mode que moi, je vois autour de moi ou si c'est un truc plus large. Mais je pense que ça doit nous alerter un petit peu parce qu'en plus, ça va ne faire qu'accroître les inégalités à l'école, quoi.
Mais c'est quelque chose en fait qui avait été pointé pour l'éducation, mais aussi pour tous les autres services publics. En fait, il y a un phénomène de les services publics se dégradent par manque de moyens, par manque de financement, parce que en fait, il y a une augmentation des besoins que ne suit pas du tout la courbe d'investissement dans les services publics. Et du coup, la réaction, c'est de se reporter, quand les gens le peuvent, pas tout le monde ne le peut, sur le privé. Et c'est frappant dans l'éducation, et notamment pour le supérieur. J'ai un trou de mémoire, c'est comment le truc horrible à la quand
Parcoursup,
voilà.
Parcoursup. C'est horrible, je te confirme.
Voilà.
Je comprends pourquoi tu l'as oublié.
ça, justement, ça accélère le phénomène de recours au privé après le bac, parce qu'en fait, si on a un truc qui correspond, mais pas du tout à ce qu'on a envie de faire, si les parents, la famille le peut, ils vont financer un parcours dans le privé pour faire en sorte que leur gamin ils aient un cursus qui correspond un minimum à ce qu'ils avaient envie de faire. Donc ça a accéléré la réforme et l'introduction de Parcoursup qui est légitimement beaucoup critiquée a aussi accéléré le phénomène dont tu parles, je pense.
Léa ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
La question ? Vous pouvez répéter la question ? Non, moi je pense que globalement, il faut avoir un avis sur cette question, c'est ça ?
Non, mais j'en sais rien, sur les résultats PISA qui viennent de tomber, les inégalités scolaires qui explosent.
Les inégalités scolaires qui explosent, c'est pas une nouveauté. Hein. On n'avait pas besoin de PISA pour l'apprendre. Il suffit d'aller dans les classes pour voir comment ça se passe, notamment dans le public, effectivement, de voir que les moyens sont pas au rendez-vous, que les professeurs sont à bout, que là, sur le budget qui est en train d'être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a une réduction du nombre de postes. Depuis 2017, il y a déjà 6000 postes qui ont été sucrés. Et là, il y en a encore 2500 qui vont être sucrés. Donc voilà. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, il y a un super article dans Le Monde de mercredi, donc d'hier, qui parle notamment de comment les gouvernements se saisissent de ce classement pour faire des sorties et des sorties politiques, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on va
Gabriel
en parler,
Attal,
évidemment.
Oui.
Gabriel Attal, qui a fait ses annonces du choc des savoirs. Voilà.
Wow.
Ouais, c'est assez beau,
il a présenté un plan choc des savoirs pour remettre de l'exigence.
Ouais.
Parmi les mesures, la fin du collège unique, on va en parler, la mise en place de groupes de niveau, donc la réforme du brevet qui deviendra obligatoire pour passer au lycée, des promesses d'embauche pour mettre en place toutes ces réformes. Et le budget 2024 prévoit pourtant la suppression de 2500 postes de profs,
voilà.
donc 481 dans le secondaire.
Donc ça, grosse question. Effectivement, sur la question des inégalités, comment le gouvernement y répond ? Bah, en fait, en essayant de créer davantage d'inégalités, ce qui est quand même assez intéressant. Puisqu'en fait, cette réforme, la clé de voûte de cette réforme du choc des savoirs de Gabriel Attal, c'est de faire en sorte de mettre en place des groupes de niveau au collège selon le niveau des élèves en français et en maths. Et en fait, ce qui est souligné notamment par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est qu'en fait, ils sont en train de mettre en garde le gouvernement par rapport à la mise en place de ce type de mesures, étant donné que ça crée davantage d'inégalités. Et ça crée aussi un sentiment de stigmatisation sur les élèves qui sont les moins bons, en quelque sorte. Et la réalité, c'est que si, et ça c'est PISA qui le dit, c'est l'OCDE qui le dit, s'ils veulent que ce type de mesures fonctionne, il faut impérativement avoir des moyens et de la formation pour les profs. Or, aujourd'hui, les profs nous disent qu'ils sont en manque de formation et en manque de moyens. Donc, s'ils veulent mettre en place cette réforme qui, déjà sur le papier, est en soi porteuse d'inégalités, mais qu'en plus, il n'y a pas les moyens derrière, ça va être trois fois pire.
On se souvient de ces galères d'embauche d'enseignants qui répondaient à des petites annonces pendant l'été pour commencer leur mission dès le début du mois de septembre, Malek.
Ouais,
ça dit quelque chose aussi du niveau de l'école.
Ça dit beaucoup de choses. Je veux juste, j'ai un petit point de désaccord avec toi, Léa. Enfin, c'est Gabriel Attal qui l'a. Lui, il avait vraiment besoin du classement PISA pour voir les inégalités, parce que je rappelle que la priorité de la rentrée, c'était la baïa.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Eh ouais,
c'est
vrai. On nous a dit que c'était que ça et qu'il fallait vraiment se mettre focus sur ça. Moi, j'ai écouté le ministre.
Donc, du coup, t'es passé à côté des inégalités.
Je suis vraiment bête, c'est de ma faute. Donc, le choc des savoirs, c'est un beau branding. De belles mesures pour pousser encore vers le tri social et vers les inégalités.
Est-ce
encore
que tu
une
peux
fois.
Nous expliquer ce que c'est que le collège unique ?
Alors, waouh ! Sur le collège unique,
parce que c'est un truc qu'on entend souvent et quand on n'y connaît pas grand-chose en politique, on peut être un peu désarçonné.
En gros, c'est le tri en réalité dès le plus jeune, dès le 1, 2, 3. Ce qu'il nous a annoncé, c'est que dès la 5e, alors attends, dès la 5e, qu'est-ce qu'il nous a annoncé dès la 5e ? Là, à ce moment-là, il y a ceux qui vont se diriger vers le truc professionnel et ceux qui vont continuer vers une filière plus ou moins générale. Les profs qui nous parlent du nombre d'effectifs, qui se plaignent des effectifs par classe. Et sur ça, il n'y a pas d'annonce concrète. Donc sur ça aussi, ils s'en plaignent. On a un nombre d'élèves par classe qui est un des plus élevés de tout l'OCDE. On parlait de l'OCDE tout à l'heure.
Non, sur les taux
donc sur ça, il n'y a rien de plus. Sur les suppressions de postes, quand on dit ça au ministre, monsieur le ministre ne veut rien écouter. Il nous a parlé de quoi aussi ? Du retour des maths, je crois, dès la première. Enfin, il y a une épreuve de maths en première. Enfin bref, il faut savoir aussi que c'est mal compris par les profs, ça aussi. Il leur a fait un mail avant de l'annoncer aux profs et les profs sont en train de se plaindre parce qu'en fait, ils n'y comprennent rien. On leur demande en plein cours d'année aussi de se réorganiser sur plein de trucs. C'est la merde. C'est la merde et personne ne veut l'entendre. Donc, et c'est le cas sur plein de services publics. L'école est en train de bouillir et en fait, si on a déjà parlé des profs qui étaient en train de dire adieu à une vocation. On continue sur cette voie-là. Bah, pour le coup, le classement PISA, on va continuer de voir, j'allais dire, notre chute. on est déjà très bas. Et on va surtout voir des profs qui vont vraiment déserter. On va se retrouver avec des profs contractuels qui vont encore aller vers ce 1, 2, 3. Ces profs mal formés, c'est ce que je voulais dire.
Il y a Soso la Tulipe dans le chat qui dit « Je suis prof, pour moi, toutes ces mesures, c'est encore une fois une réponse d'urgence, pas du tout un travail réfléchi. » C'est vrai que ça fait un peu improvisé sur un coin de table, juste à l'occasion de la sortie du rapport PISA, quoi.
Il y a un sein contractuel, j'ai tenu 3 ans. T'as vu, tu vois, en fait, c'est le... Gabriel Attal parlait aussi de ces contractuels qui, en réalité, c'était la petite porte d'entrée pour ensuite leur dire « Bienvenue à l'éducation nationale », mais qui reste, en fait ? Personne.
Claire.
Ouais, en fait, le problème avec cette mise en place des groupes de niveau, c'est que toutes les constats des experts pédagogiques disent que, en fait, dans une situation où on met des moyens constants, en fait, ça va renforcer les plus forts parce qu'il va y avoir une émulation dans les classes de bon niveau, et puis ça va affaiblir les plus faibles. Et en plus, ce qui risque d'arriver, puisque il n'y a pas de choc d'effectifs, il n'y a pas de choc de moyens. C'est un choc des savoirs, mais c'est un peu léger en termes de moyens supplémentaires apportés à l'école publique pour mettre en œuvre ce choc des savoirs. Ce qui se passe, c'est que pour faire ces groupes de niveau, on va peut-être rogner sur les heures d'art plastique des groupes les moins bons pour leur ajouter des heures de maths. On va peut-être rogner sur des matières qu'on va considérer comme moins pivot, moins stratégique, parce qu'elle ne se voit pas dans le classement de PISA, peut-être, et que ça ne permet pas à la France de dire « bon, bah regardez, on a remonté dans le classement, etc. » Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on a des éducations au rabais pour ceux qui sont déjà défavorisés, qui ont déjà pris du retard en primaire, et puis on a le haut du panier qui va continuer à se renforcer, et ça va juste asseoir des inégalités sociales qui sont déjà présentes. Et ce que ça casse aussi, c'est ce dont tu parlais, le collège unique qui a été mis en place en 1975. Et ce que ça permet, c'est un bain commun du vivre ensemble pour toute une génération.
En fait, le principe du collège unique, c'est qu'on attend la fin du collège pour orienter les enfants vers éventuellement des filières professionnalisantes.
Oui, pour faire la sélection.
Mais je pense que...
une forme de sélection, ouais.
Oui, et ce qui est important à souligner, c'est que à l'école publique, à l'école républicaine, c'est pas juste aller en cours et s'abreuver de savoir. C'est aussi une expérience de vie où on est dans un bain commun avec ses concitoyennes, ses concitoyens. On apprend à vivre ensemble. Et si dès le collège, en fait, on sépare, on compartimente. Bien sûr qu'il y a, aussi un background sociologique qui va aussi s'auto-renforcer là-dessus. Bah, c'est une catastrophe aussi pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ce n'est pas qu'une question de savoir tels qu'ils sont déterminés comme valables par des classements internationaux, en fait.
Ouais. Un truc qui m'a surpris, c'est qu'on n'a pas eu d'annonce sur les REP et les REP+. Alors que pour le coup, les inégalités territoriales, on les connaît. Il y a des établissements qui sont plus en difficulté que d'autres. Et typiquement, je m'attendais à avoir potentiellement plus des annonces différenciées en fonction des territoires. Mais non, a priori, ce sera dans tous les collèges que ça va être la même chose.
Et
Malek ?
Gabriel Attal nous dit aussi que ces annonces-là sur les chocs des savoirs interviennent à la suite d'une concertation qu'il y a eu entre tous les acteurs de l'éducation. Et les syndicats d'enseignants te disent qu'en gros, ils ont fait des propositions concrètes pour les repérer plus. Mais qu'à la fin du compte, quand on voit la copie de Gabriel Attal, il n'y a plus rien, quoi.
Léa ?
Il y a un autre élément aussi qu'il faut souligner, c'est l'instabilité. Réforme après réforme face à laquelle sont confrontés en fait les enseignants et enseignantes, mais aussi les élèves, parce qu'en fait les choses changent constamment. On a eu nombre de réformes, notamment pour le lycée. C'est moins vrai pour le collège, effectivement. Ça fait un certain temps que le collège n'a pas été réformé.
La réforme du collège était Najat Vallaud-Belkacem.
Voilà, donc ça fait un certain temps, mais il y a quand même ce climat d'instabilité qui est créé par le gouvernement. Que d'ailleurs les profs ne cessent de souligner en disant que c'est pas confortable pour les faire travailler, etc. On fait des réformes, on revient dessus. Enfin, on a effectivement l'impression qu'il n'y a pas de stratégie, en fait. Il manque une stratégie sur l'éducation nationale, c'est-à-dire c'est quoi l'éducation qu'on veut, à quoi ça sert aussi, c'est quoi les objectifs de l'éducation, en réalité, comme tu le disais. C'est pas forcément que apporter du savoir, c'est aussi faire en sorte que les personnes puissent s'émanciper, etc. etc. Donc Donc il y a un certain nombre de ratés. Il faut savoir aussi que le ministère de l'Éducation, là, en tout cas pour Gabriel Attal, c'est un rôle, enfin c'est très politique, c'est très clé. Pour lui, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour sa carrière politique. Il semble être potentiellement un peu en roue libre sur certaines choses parce que il fait des annonces qui sont pas tout à fait en phase avec ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, notamment qui promettait davantage d'autonomie pour les enseignants et les enseignantes, etc. Alors que là, on voit bien qu'il y a une volonté de recadrer les choses avec aussi la refonte du programme en primaire, etc., etc.
Dans le premier degré, l'autonomie, je crois.
Donc, il y a quand même ces... Voilà, il y a un peu deux sons de cloche qui sont difficiles à comprendre. C'est vrai que ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les profs, aujourd'hui, sont quand même assez maltraités, en fait. Hein. Les conditions dans lesquelles ils doivent travailler, il et elle doivent travailler, sont quand même très, très rudes. Alors que finalement, l'éducation nationale, c'est un service public qui devrait être le plus choyé, le plus valorisé. Et j'ai l'impression qu'ils font tout le contraire. À quoi bon ? Enfin, pourquoi, en fait, aussi ? J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Là, on nous reparle du retour de l'uniforme. Alors,
ils en ont reparlé encore.
Oui, que l'expérimentation va être mise en place, etc. Enfin, on a l'impression que l'éducation nationale, c'est un peu un labo des politiques.
Il y a plutôt qu'à commencer les uniformes.
Voilà. Oui, pardon. Tout à l'heure, j'ai parlé de REP et de REP+, sans définir ce que c'était. Excusez-moi. Ce sont les réseaux d'éducation prioritaire. C'est les nouvelles ZEP, si vous voulez, si vous connaissez un peu mieux le terme ZEP. Les réseaux d'éducation prioritaire, ce sont donc des établissements qui reçoivent un public, enfin des élèves en difficulté sociale et qui donc bénéficient de moyens supplémentaires. C'est un peu l'équivalent de la politique de la ville appliquée à l'éducation nationale. Donc c'est ça, les REP et REP+, ce sont les établissements prioritaires qui reçoivent beaucoup plus de... Enfin, beaucoup, ça dépend. Plus d'aide. plus de temps. Enfin bref, je ne rentrerai pas dans le détail, je pourrais en parler pendant des heures. Claire ?
Oui, je pense pour essayer d'apporter une sorte d'élément de réponse sur pourquoi ? Je pense qu'en fait, il n'y a pas d'intention, de volonté politique de mettre sérieusement des moyens, d'en fait engager des profs, de valoriser à leur juste valeur le rôle social et le rôle éducatif des profs dans ce pays. Il faut rappeler que c'est quand même un vrai métier. Moi, j'ai passé le CAPES de philo. En fait, vraiment, être prof, je pense que ça s'apprend, c'est sérieux. On a une responsabilité face à des jeunes gens et c'est des moments qui sont très formateurs et déterminants pour eux et qui peuvent être des bifurcations dans leur trajectoire aussi. Donc, la responsabilité, elle est immense. Et là, on a une situation où, effectivement, on a vu du job dating où les profs se font recruter avec des entretiens d'une demi-heure.
Annonce là, le bon coin, c'est n'importe quoi.
Enfin, je veux dire, on est en train de démonétiser complètement le rôle du professeur, de l'enseignant dans la République, alors que historiquement, il a un rôle pilier, en fait. Donc, vu qu'il n'y a pas les moyens, on ne veut pas mettre les moyens sur la table pour faire ce vrai travail-là, qu'est-ce qu'on fait ? On met des pansements, on fait des rustines, notamment l'introduction des dispositifs numériques. On les équipe en écran. Là, il y a plein de modules qui vont se faire sur tablette, etc. Donc, il y a des modules numériques, il y a une numérisation de l'enseignement. C'est aussi une manière de se passer un peu du rôle du prof, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas du tout la même forme d'enseignement et de pédagogie quand on laisse les gamins seuls face à un écran, alors que par ailleurs, Attal est aussi, il n'y a pas longtemps, il a pris des positions pour pointer les dangers en termes de santé mentale, de psychologique, de des trop écrans. D'écran pour les jeunes. Clair. Donc, il y a une très claire contradiction. Donc, le risque, c'est vraiment d'avoir un système éducatif à deux vitesses, avec l'école au rabais à l'école publique, avec en plus une stratification selon les classes sociales dans cette école publique. Et puis, ceux qui pourront, ils iront dans des écoles privées. Où il y a des profs, des moyens, etc. Donc,
au final, il l'a fait son immersion là,
en lycée.
Ouais, il l'a fait en lycée.
Il lui faudrait des immersions hein, parce qu'il n'a pas mis un pied à l'école publique pendant toute sa trajectoire scolaire à lui. Donc, je pense qu'il a des choses à apprendre.
On verra.
C'était ouf, quoi.
Ouais. On verra ce que ça donnera. En tout cas, on fait un gros bisou à tous les personnels de l'éducation nationale qui sont dans le chat et qui regardent cette émission en replay aussi. On pense à vous, force à vous, bon courage pour cette année scolaire et pour les suivantes aussi. Autre sujet dont on voulait parler cette semaine, la COP28 qui se tient à Dubaï. 2023 a été l'année la plus chaude de l'histoire, sachez-le. Cocorico, félicitations, on a battu un record de consommation de pétrole aussi. On est en train de s'éloigner des engagements, des objectifs des engagements de la COP21 de Paris. maintien du réchauffement climatique sous les 1,5 degré, ça a priori, on n'y arrivera pas. Pas tellement d'engouement ou d'espoir autour de cette nouvelle COP, beaucoup de sarcasme. Elle a débuté par la mise en œuvre du fonds pertes et dommages qui doit permettre aux pays les plus vulnérables de financer la réparation des dégâts causés par le réchauffement climatique. Léa, est-ce que c'est... Enfin, c'est vrai qu'elle n'attire pas beaucoup cette COP. C'est notamment parce qu'il y a des grands absents.
Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, de ce que j'ai vu, apparemment, il y avait 110 000 personnes qui ont été accréditées, ce qui est beaucoup, en fait.
OK.
Beaucoup de monde, en fait.
Dont 2456 lobby du pétrole.
Alors ça, oui, effectivement, mais ce qui est, juste pour préciser, justement, sur le fonds pertes et dommages, parce que je trouvais ça quand même assez intéressant.
C'est quoi le fonds pertes et dommages?
Justement, c'est le fonds pour venir en aide aux pays qui ont été meurtris par le dérèglement climatique. Ouais. Et on est à une semaine de la clôture de la COP, qui dure donc deux semaines pendant lesquelles toutes les parties prenantes se réunissent pour se mettre d'accord sur des objectifs, normalement, et notamment l'objectif, en tout cas ce que préconisaient les experts et les associations pour ce fonds, c'est de mettre 580 milliards de dollars dans l'enveloppe, de sorte à faire face à ces difficultés, et notamment aider les pays qui ont été meurtris par le dérèglement climatique. Okay. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les promesses ne sont qu'à un niveau de... pour le moment, les États ont promis de mettre 600 millions.
Mais attends, c'est un principe de pollueur-payeur.
Alors, pas tout à fait, en fait. Je crois que c'est plus je ne peux pas te le décrire dans les détails. Peut-être que Claire est plus compétente sur la question. Mais c'est plus une question de solidarité, effectivement, par rapport aux enjeux du dérèglement climatique, qui, en plus, se frappe de manière complètement inégale. Beaucoup de pays, le sud global, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que ceux qui ont de la thune puissent aider ceux qui n'ont moins et qui, en plus, sont en première ligne face aux effets du dérèglement climatique. Sur ce qui est assez intéressant, vraisemblablement, les observatrices et observateurs sont en train de noter que on va vraisemblablement s'orienter vers un échec, puisque l'objectif quand même qui serait le plus louable dans cette affaire, c'est de faire en sorte que soit inscrit dans cet accord le fait de sortir des énergies fossiles, ce qui a été déjà discuté l'année dernière à Sharm el-Sheikh, etc., et qui n'a pas abouti. Donc on s'oriente vraisemblablement, on rappelle quand même que ça se tient à Dubaï, que c'est accueilli du coup par une pétromonarchie qui a quand même pas mal d'intérêt en la matière, qui a insisté, d'ailleurs le sultan qui a ouvert cette COP, qui est le président de la COP du coup de fait, a insisté sur l'importance qu'ont les pays des pétromonarchies à jouer dans la transition énergétique, etc.
Et lui-même PDG d'une compagnie pétrolière.
Voilà, par exemple, notamment. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui moi m'intéresse encore plus, c'est comment en fait comment la COP a évolué. Au fil du temps, je fais un petit rappel historique,
vas-y.
Je trouve ça amusant. Donc en 92 se tient le sommet de la Terre à Rio. C'est sous l'égide des Nations Unies. Plusieurs conventions sont adoptées, notamment autour du climat, bien entendu. Et puis, est décidé de mettre en place un système de gouvernance dont l'organe suprême sera la COP. La première COP a lieu à Berlin en 94. Ensuite, il y a eu, c'était plus ou moins tous les 3 ans, désormais c'est à peu près toutes les années. Ensuite, il y a eu une COP importante qui a un peu marqué les choses, c'est le protocole de Kyoto qui a été adopté en 97, où il y a eu l'introduction d'engagements contraignants pour les États, afin de respecter une baisse des émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Ensuite, il y a eu un événement assez marquant, c'est la COP 21, que tu en parlais tout à l'heure, qui s'est tenue à Paris en 2015, avec l'accord de Paris, qui est un texte nouveau d'application de la convention, des conventions de 92 et qui précise des objectifs, notamment limiter le réchauffement climatique en deçà des 2%. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que sort en fait ? Qu'est-ce qui émane de ces grands raouts internationaux où effectivement les lobbyistes se bousculent ? La réponse, c'est pas grand-chose parce qu'en fait, on l'a vu l'année dernière, il n'y a pas eu grand-chose. Je veux dire, les États ne s'engagent plus, les moyens sont... Enfin, voilà, je veux dire, là, sur le fonds pertes et dommages, quand tu vois qu'il faut 580 milliards de dollars et finalement, on arrive à se mettre à peu près d'accord sur 600 millions, on est bien, bien loin des objectifs. Donc, du coup, la question, c'est de savoir quel est l'intérêt de ce type de rencontres. Est-ce qu'elles ont encore un sens aujourd'hui? Je pense que oui, parce que ça permet quand même de mettre la lumière sur la question du dérèglement climatique. Pour les médias, pour l'opinion publique, c'est des moments de sensibilisation qui sont très importants et très forts. Mais il faudrait encore faire davantage de place, je pense, aux experts, aux associations, parce que là, effectivement, c'est complètement coopté par les entreprises, et notamment des entreprises pétrolières, etc.
C'est vrai qu'elle était mal partie, cette COP. Je le disais, son président est le PDG d'une compagnie pétrolière. La BBC a fait une enquête montrant que les Émirats arabes ont essayé de profiter de la COP pour négocier et conclure des deals autour de contrats pétroliers. C'est quand même pas mal.
Juste, pardon, parce qu'effectivement, il y a la police du chat qui m'a rattrapé, et merci. C'est bien... limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et pas 2%, pardon.
2 degrés.
Évidemment.
Le Guardian aussi a retrouvé un extrait d'une conférence Zoom où on entend le président de la COP expliquer qu'aucune étude scientifique ne montre la nécessité de sortir des énergies fossiles pour maintenir le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés. Ça la fout mal quand même pour cette COP, Claire.
Oui, en fait... on atteint un moment où, en plus, les conséquences très concrètes du dérèglement climatique se font sentir de manière très, très violente. Et pour 97% des personnes touchées par ces conséquences, c'est dans le sud global. Donc, en fait, on y est.
Global, tu rappelles.
Donc, dans les pays qui ont parfois été, par le passé, en développement, etc. Donc, c'est des pays qui, par leur situation géographique, sont beaucoup plus touchés par les conséquences du dérèglement climatique. Et effectivement, comme tu le soulignais, en fait, ce qui est mis en place pour essayer de les aider à faire face n'est pas du tout suffisant. Et il manque entre 10 et 18 fois les montants qui sont promis pour le moment pour qu'ils puissent s'adapter réellement. En plus, c'est aussi souvent des pays qui payent très très cher le service de leur dette. Donc en fait, c'est des pays qui sont endettés, souvent envers la Banque mondiale ou le FMI, ouais, qui du coup déversent de l'argent pour juste éponger leur dette et qui du coup se prennent en plus, en pleine tête, les conséquences d'un dérèglement climatique qui n'est pas leur responsabilité historique. Donc oui, les fonds pertes et dommages, ça permet d'acter qu'en fait, on reconnaît la responsabilité historique des pays occidentaux, des pays industrialisés, etc. Mais en fait, le compte n'y est pas du tout. C'est-à-dire que c'est totalement hypocrite, cette COP. D'un côté, on dit oui, on va relancer pertes et dommages, tout ça, tout en allouant des fonds qui ne sont pas du tout suffisants. Mais par contre, pour mettre au cœur de la discussion ce qui devrait être sur la table, c'est-à-dire le capitalisme fossile, là, il n'y a plus personne, on
tergiverse,
ça fait des blocages. Et oui, le lobby des industries fossiles ont été prédominants. Là aussi, en termes d'évolution des COP, si on prend le chiffre, le nombre de lobbyistes du pétrole présent, c'est en ascension. Et là, c'est vraiment un pic. Il y en a donc 2546 qui sont présents à la COP là. Et c'est plus que le nombre de représentants qu'il y a pour les pays, justement, du sud global. Donc, ça dit bien qu'en fait, le rapport de force est absurde. Et... en fait, c'est aussi, c'est les industries fossiles, mais c'est les États qui les ont laissés être là. Je veux dire, Macron, il est arrivé à la COP avec, dans son entourage, des industriels, Danone, etc. Donc, il y a un vrai problème de comment on envisage cette question du dérèglement climatique. Il va falloir, si on veut avoir l'espoir de faire une vraie transition profonde et rapide, en fait, va falloir, c'est une question de rapport de force politique, il va falloir faire basculer. Et c'est vrai que plus on voit ça, plus on se dit, purée, mais par quel bout prendre le truc? Parce qu'en fait, la COP, notamment en 2015, à Paris, ça donnait quand même l'espoir que... purée, on arrivait à un cadre qui nous permettait d'avancer ensemble. Et en fait, là, c'est vraiment tous les espoirs qui avaient commencé à émerger à ce moment-là qui sont clairement bazardés. Donc, la question de l'étape d'après aussi pour le mouvement climat, c'est quelle échelle d'action stratégiquement il faut privilégier. C'est des vraies questions qui se posent et qui sont difficiles parce que là, on voit que l'emballement climatique est là. Antonio Guterres a parlé d'une ère de l'ébullition mondiale. Et face à ça, c'est parfois compliqué de savoir par quel bout prendre et à quelle échelle d'action prendre les choses.
Malek, on parlait la dernière fois de la différence entre la politique des grands discours et la politique de l'action. Est-ce que ces premiers jours de la COP ont répondu aux questions qu'on se posait?
On est déjà à la moitié, je crois, de la COP, là.
Oui, je crois que ça s'arrête la semaine prochaine.
Ouais, ça s'arrête le
Tu vois, on est à la moitié. Je crois que ce qu'on s'est dit il y a deux semaines vaut toujours, c'est que beaucoup de discours, pas beaucoup d'actes. Tous les petits signaux, donc le fait que ça ait lieu à Dubaï, le fait que ce soit présidé par ce PDG de pétrolier, le fait que tous ces lobbies soient accrédités, Et le fait surtout qu'on nous dise clairement, les gars, l'accord de Paris, vraiment, vous le mettez où on pense et on va plutôt chercher à sauvegarder nos intérêts, ça nous donne raison. Tout à l'heure, je disais dans le chat, il y a quelqu'un qui disait oui, mais là, ça ne se fera pas sur les industriels. Oui, mais pas du tout vers le chemin sur les, qui sont en train de dessiner. Donc, oui, et moi, encore une fois, on revient aussi au rôle de la France dans tout ça, parce que c'est aussi au rôle de la France de défendre des accords de Paris qui ont été votés chez nous. Ouais. Bah, chez Emmanuel Macron, j'ai vu un discours, hein, je l'ai vu, hein. Mais derrière, est-ce que ça se transforme? Je ne sais pas. Je ne pense pas.
Léa, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du multilatéralisme? Parce qu'il y a des grands absents quand même. Hein. Biden, Xi Jinping sont absents. L'Union européenne et les États avancent de leur côté sur le même sujet. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'un multilatéralisme? Ce n'est pas le seul sujet. On pourrait parler de Gaza aussi, hein, qui là aussi repose la question du multilatéralisme.
En tout cas, il y a une refonte du multilatéralisme qu'on a connu jusqu'à présent avec une domination notamment des États occidentaux. Il y a des rapports de force qui se déplacent. Il y a effectivement des unions régionales aussi qui se créent. Là, je pense qu'il y a aussi un élément assez intéressant qu'il faut aborder, c'est que dans la région où est en train de se tenir la COP actuelle, c'est une région qui investit beaucoup, notamment dans les énergies renouvelables aussi. Il y a un enjeu, en fait, d'énergie. La question de l'énergie devient un véritable sujet, en fait, véritablement central dans la question des relations internationales. Est-ce que c'est la fin du multilatéralisme? Je ne sais pas comment répondre à cette question, je ne pense pas. Ça me semble difficile. En revanche, oui, il y a des mouvements qui ne répondent plus et qui ne correspondent plus au multilatéralisme qu'on a connu d'après la Seconde Guerre mondiale, qui était vraiment sous l'égide de l'ONU, etc. Géniales. Parce que tu vois bien, même ce qui est en train de se passer à Gaza, d'ordinaire, quand le secrétaire général des Nations Unies ouvre sa gueule, les États suivent. Et là, tout le monde s'en tape. Je veux dire, l'ONU, la majeure partie des agents de l'ONU, il y en a des dizaines qui ont été tués à Gaza. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement inédit, je veux dire, dans l'histoire du multilatéralisme, avec l'ONU qui chapeaute ce multilatéralisme. Moi, ce que je vois, c'est que le multilatéralisme existe encore, je pense, avec peut-être un affaiblissement des organes internationaux, et notamment des Nations Unies.
Claire ?
Ouais, je pense que faut se rappeler que le dérèglement climatique, c'est fondamentalement une question de droits humains, en fait. Quand les gens pourront plus boire, lorsqu'il y aura des conflits généralisés parce que l'accès aux ressources est compromis, etc., ce sera fondamentalement des violations à large échelle des droits humains. Et effectivement, le contexte qu'on est en train de vivre là, avec ce qui se passe à Gaza, c'est le signe très clair que la communauté internationale, elle n'est plus du tout capable de reconnaître la centralité des droits humains fondamentaux et de faire respecter un minimum le droit international qui, effectivement, a été établi après la Seconde Guerre mondiale, précisément pour éviter le genre d'atrocité qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est en train de voir cet ordre-là, qui a toujours été imparfait, il y a toujours eu des violations, mais on avait un cadre sur lequel on était d'accord. Là, ça, c'est en train de se fragiliser parce que y a quelque chose qui pourrait se qualifier de génocide qui est en cours et pas de réaction de la communauté internationale. Donc là où le lien se fait avec la question du dérèglement climatique, c'est si on n'a même pas de communauté internationale pour faire reconnaître des normes, des valeurs, l'importance du respect des droits humains et de la dignité de tous dans un cas flagrant de violation du droit international et des droits humains, ça laisse moins d'espoir pour penser qu'on va réussir à créer cette coopération et à créer cette justice climatique dont on a vitalement besoin si on ne veut pas aller vers une accélération des conflits et des violations des droits humains.
En parlant de COP et en parlant d'écologie, on voulait aussi discuter un petit peu rapidement du lancement de la campagne européenne d'Europe Écologie Les Verts. C'était samedi dernier. Ça s'appelait Pulsation Meeting pour le Vivant. Lancement des européennes des écologistes. Leur tête de liste s'appelle Marie Toussaint. Ça a fait quand même pas mal parler et pas mal jaser aussi cet événement. Il y avait la présence de Gaspard Koenig, la volonté de mettre en avant la douceur avec une séance de boutithérapie. Ça a plus jasé sur la forme que sur le fond, cet événement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Claire, t'en penses quoi?
En fait, je pense qu'il faut passer un peu au-delà de l'aspect un peu déconcertant que ça peut avoir. La séance inaugurale, c'est de la boutithérapie. Mm-hmm. C'est un concept qui a été inventé par une femme qui s'appelle Maimouna Koulibaly. Mm-hmm. Elle-même a été excisée et elle en parle comme en fait une méthode pour se libérer des traumas, etc.
C'est un geste politique.
Donc, en fait, ce que les Verts ont défendu, c'est que ce moment-ci, en fait, c'était un moment pleinement politique. Là où, en fait, ça pose peut-être problème, c'est que, d'une part, en fait, la vocation d'un meeting politique, c'est pas d'avoir un sens uniquement pour les personnes et les militants qui sont présents là. Ça vise à transmettre un message politique, un sens politique, au-delà. Et là, c'est vrai qu'il y avait un peu un côté très surprenant, on ne comprenait pas trop, et du coup, ça a effectivement donné lieu à beaucoup de dérision, etc. Et il y a une autre problématique qui, à mon sens, est beaucoup plus importante, c'est que, en fait, Maimouna Koulibaly elle-même dit que cette pratique, c'est du sport, c'est du développement personnel. Et il y a une vraie question sur, en fait, un outil, une pratique qui est de l'ordre du développement personnel. Est-ce que ça a vraiment sa place dans un meeting de l'écologie politique, mmh. en fait? Parce qu'il y a un débat au sein de l'écologie politique, sur, en fait, c'est quoi la voie du changement? Est-ce qu'il faut attendre les transitions individuelles de chacun, que chacun trouve
d'accord, il y en a qui défendent, mais pas toutes.
Voilà, ouais, et en fait, du coup, ça met un peu le doute sur à qui s'adresse ce meeting. Après, c'est peut-être une stratégie électorale pour toucher une sociologie qui est sensible à ça. Mais dans ce cas-là, ça pose d'autres types de problèmes si on veut être sérieux sur le fait qu'il faut une écologie populaire, une écologie pleinement politique. Donc, en fait, voilà, ça pose des questions qui sont politiques sur quel type de message on envoie. Je voulais vous lire parce que Camille Hachès, donc, qui est l'ancienne co-secrétaire fédérale des jeunes écolos, a réagi parce qu'elle-même...
Elle l'a critiqué, elle.
Elle a été plutôt très critique de ce meeting. Et elle a notamment critiqué le fait qu'on utilise cet outil le boutithérapie, qui est un outil de développement personnel, en disant « Le développement personnel amène l'idée que la solution est intérieure à chacun et chacune. C'est une vision individualiste, contraire à ce qu'on devrait porter en tant que parti. Si la solution est intérieure, pourquoi militons-nous? Pourquoi essayons-nous de faire collectif ?» Donc, c'est bien ça le problème. Et si ça s'accompagnait d'un meeting où le message politique, la ligne politique, les mesures annoncées étaient claires, peut-être que ça aiderait. Mais là, on a effectivement eu la présence de Gaspard Koenig, qui est un ultra-libéral.
Ouais, pour le coup, ouais.
Donc, en fait, ça crée une situation où c'est confus, voire confusionniste, quoi, en termes du message politique qui ressort.
Léa.
C'est le mec qui avait fait le Tour de France sur le dos de sa jument pour la présidentielle.
Gaspard Koenig ?
Ouais.
Il a fait beaucoup de choses.
Non, mais attends, trucs, bouge pas, attends le melon quand même. Hein. Pour marcher sur les traces de Montaigne, me semble-t-il. Mais fabuleux. Donc c'est quand même étonnant, effectivement. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas ? Vraie question.
Mais à qui s'adressait ce meeting,
et ben voilà,
selon toi ?
C'est la question que je me suis posée, moi. Je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Non, mais c'est vrai. J'imagine un peu la réunion de Brainstorm autour de Marie Toussaint, Marine Tondelier, etc. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour ce meeting ? Ah, mais il faut se réinventer. Il faut faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr qu'ils se sont dit ça. Donc du coup, ils ont dit, bon, ben voilà, effectivement, on est dans un contexte un peu particulier. On a quand même des élections à gagner. Je veux dire, l'élection des Verts, on sait, c'est les européennes et c'est les prochaines élections. Donc, ils devaient mettre le paquet. Marie Toussaint étant effectivement la tête de liste, fallait mettre le paquet. Il fallait que ça marque. Il fallait qu'il y ait des gens qui se reconnaissent certainement dans le projet. Mais effectivement, le projet, bon, on est un peu passé à côté. On ne voit pas trop quel est le projet. Sur le fond, moi, je n'ai pas retenu grand-chose, j'avoue, de ce meeting. Mais la question que je me suis posée, c'est, bon, moi, je me mets à leur place. Qu'est-ce que je cherche à faire ? À ramener du monde, à réintéresser les gens à la politique, à mobiliser, n'est-ce pas ? Donc, je cherche, pourquoi pas, à faire des choses originales qu'on n'a pas l'habitude de voir, etc., etc. Est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas. Mais la vraie question qu'il faut se poser derrière tout ça, c'est quand même assez symptomatique de la vie politique française et dans toute la classe politique française. C'est-à-dire, aujourd'hui, les partis politiques traditionnels, parce que les Verts peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça reste un parti politique traditionnel en France aujourd'hui, n'arrivent pas à raccrocher la majeure partie des gens au wagon, en fait. C'est-à-dire que le désintérêt dans la forme traditionnelle et partisane de la politique est là. Et en fait, même en essayant de se réinventer, effectivement, avec, pourquoi pas, des événements comme celui-ci, moi, je suis ni pour ni contre, en fait. En vrai, je m'en tape. Voilà, je vous dis, voilà, mon avis est clair, au moins. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, quand on est un parti politique, on cherche effectivement à avoir des adhérents parce que c'est, bon, c'est le nerf de la guerre, ça permet d'avoir de la thune, ça permet d'avoir de remporter des élections, etc. Mais la vraie question que ces gens-là devraient se poser, c'est comment on fait en sorte pour que le peuple se réapproprie le pouvoir, pour que la majorité soit en capacité de décider. Voilà, moi c'est ça que j'aimerais entendre de la part des responsables politiques. Et n'importe quel parti politique, je m'en fous que ce soit à droite, à gauche, au centre, j'ai envie d'entendre ça. Sauf que là, on ne l'entend pas. On essaie de faire des coups de com' pour aller draguer un tel, une telle, machin. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que les gens qui se sont mobilisés contre la réforme des retraites, les millions et milliers de personnes qui étaient là pendant des mois à s'épuiser, à faire des piquets de grève, etc. Je veux dire, la politisation, elle est là. Les gens sont politisés. Les gens ont envie de décider pour leur avenir. Sauf qu'on a des partis politiques éclatés au sol qui ne sont absolument pas capables d'entraîner qui que ce soit. Et la politique, aujourd'hui, elle se fait en dehors des partis. Et ce que nous prouve aujourd'hui ELV, c'est qu'ils n'ont pas la recette miracle parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Et la bonne question à se poser, c'est comment on fait pour réinventer la politique et faire en sorte de raccrocher celles et ceux qui se sentent les plus éloignés et de faire en sorte qu'enfin, on puisse toutes et tous faire partie du processus décisionnel. Et ça, pour le moment...
Bah, Europe Écologie Les Verts, c'est vrai qu'ils sont... Mais ils ont toujours... Il y a toujours eu une promesse dans le cœur du parti Europe Écologie Les Verts de faire de la politique autrement. Ça a toujours été un truc qu'ils ont toujours défendu en disant Europe Écologie Les Verts va essayer d'inventer une autre manière de faire de la politique dans tout un tas d'aspects. Alors, au bout du bout, ça reste un parti politique comme un autre parce que ça finit par présenter des candidats à des élections. Mmh. Ça reste le béaba d'un parti politique. C'est d'ailleurs, c'est des processus même de sélection des candidats face aux, qu'on va envoyer aux élections. Ouais. Mais sur la forme, Europe Écologie Les Verts continue d'avoir envie de rajouter un peu de sensibilité dans la politique, sortir un petit peu de la politique du rapport de force et de la conflictualité. Ils essayent aussi d'inventer de nouvelles choses. Et ça, pour le coup, c'est pas les premiers à l'avoir fait. On se souvient de Ségolène Royal avec la démocratie participative qui se mettait au milieu de la salle et non pas sur un meeting face au public. On se souvient du Parti Socialiste aussi pendant des années qui avait essayé de réinventer le meeting politique avec des humoristes, avec de la musique, etc. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui a quand même mis en place des nouveautés avec son parti La France Insoumise.
L'hologramme,
c'est un très bon exemple.
C'est du spectacle, quoi.
Et oui, effectivement, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Et ça ne dit rien. Et c'est pour ça
c'est de l'événementiel.
Et c'est pour ça que moi, le lancement de la campagne là, de Marie Toussaint, pour moi, c'était un épiphénomène. Ça ne dit pas grand-chose de sa campagne.
Peut-être pour rebondir, pardon Jean, sur la question justement de faire de la politique différemment. Marie Toussaint, son fond de commerce, c'est de dire qu'il faut apporter de la douceur en politique. Et c'était un peu le message qu'elle a voulu faire passer pendant ce meeting notamment. Et là-dessus, j'ai quand même des petits éléments. Je pense que c'est important de réagir là-dessus parce que qu'est-ce que ça veut dire que d'apporter de la douceur en politique ? Alors ça, déjà, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Mais bon, on comprend que c'est essayer de faire la politique différemment. Alors c'est vrai que, comme tu dis, ELV s'inscrit un peu là-dedans, de manière un peu traditionnelle, d'essayer de faire les choses différemment, mais en réalité, ils font tout comme tout le monde. Peu importe. Quand tu vois comment ça se passe à l'intérieur de leur parti, je veux dire, c'est pas mieux qu'ailleurs, hein, clairement. Mais il y a un élément assez intéressant quand même là-dedans, qui est essayer de convoquer des affects positifs. Parce qu'on se rend compte que, globalement, en politique, depuis un certain temps, on est enfermé dans des affects assez néfastes, assez négatifs. Mmh. Il y a Eva Ilius qui écrit là-dessus, notamment, et qui parle de l'État d'Israël, sur comment l'État d'Israël a convoqué des affects très négatifs, comme la peur, le ressentiment, etc. Il est temps, effectivement, de peut-être se positionner sur de nouveaux affects et de réfléchir à quelque chose de plus positif. Mmh. Pourquoi pas, pour écraser le discours dominant qui nous promet d'aller droit dans le mur. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a un nouveau récit à inventer et apporter en politique, c'est fondamental. Il faut effectivement réfléchir à ça, mais je pense que là, l'urgence, c'est comment on fait pour sortir du système actuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on... On ne peut pas faire... En gros, le système actuel ne nous permet pas de faire de la douceur en politique, typiquement.
Bah là, comme il faut des électeurs pour les européennes. C'est ça, l'objectif.
Oui, voilà, bien sûr. Mais en fait, tout ce qu'ils essaient de vendre comme étant quelque chose de novateur, de faire de la politique différemment, etc., en fait, c'est pas possible. Pour moi, c'est impossible dans le système actuel. On le voit bien, parce que tous ceux qui essaient de le faire, celles et ceux qui essaient de le faire, en fait, tombent dans les mêmes travers que les partis traditionnels. Donc, je pense qu'au lieu de réfléchir à intégrer, apporter une dose de douceur en politique, etc. Je pense que l'urgence, là, c'est de savoir déjà comment on sort de cette vision de la politique et de ce système politique qui est enfermé dans une notion de domination. Domination à l'égard des autres, domination à l'égard de la nature, dans l'exploitation, etc. Et pour moi, le seul moyen, c'est en sortant du capitalisme, c'est en sortant du système patriarcal.
Oui, mais là, tu réponds pas à la question sur comment on fait des meetings.
Non, bah, je pense que d'abord, il faut tout faire péter.
Moi, je pense et après, qu'on
fait des voilà. Non, mais en fait, d'accord. C'était ça que je voulais dire. Je voulais dire d'abord, on peut tout faire péter. Et après, on peut faire des meetings
pour
voilà.
Être majoritaire,
c'est ça.
Finalement.
Moi, je pense qu'ils devraient retirer la boutique thérapie et inviter Léa à parler pendant une demi-heure avant leur meeting. Ce serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus politique.
Merci. Je sais pas.
Malek, toi, t'en penses quoi?
Alors, juste avant, je veux juste dire que, évidemment, je suis un homme et je n'ai pas à dire à des femmes quoi faire de leur corps en meeting ou pas, hein, qu'on ne vienne pas me faire de procès qui ne sont pas, enfin, ce ne sont pas du tout mes intentions. Juste, on parlait d'Europe Écologie comme d'un vieux parti, enfin, c'est un vieux parti, puisque c'est de l'entre-soi, comme tous les autres partis, qu'en réalité, leur base, qui pourrait être aujourd'hui les activistes du mouvement climat, se dirige vers tout sauf vers Europe Écologie Les Verts, et ça devrait un petit peu les questionner. J'ai trouvé ça très cringe, très déplacé, surtout dans la période, puisque la vérité, c'est que des gens crèvent la dalle, c'est qu'il y a des ratonnades dans les rues de France, c'est qu'il y a un contexte à l'international qui est très compliqué, c'est que les classes populaires s'éloignent des urnes, et c'est que les élections européennes, ça va être une petite baston entre les macronistes et le Rassemblement national, et que la gauche va être spectatrice de ça, dont Europe Écologie Les Verts, alors que c'est censé être une élection qui les mobilise un petit peu.
Oui, normalement, les élections européennes, c'est plutôt pas mal pour ELV.
Je sais pas si je veux un jour qu'on pointe la responsabilité. Je veux savoir qui a eu cette idée folle, mais pas d'inventer l'école, de faire du beauty therapy en plein meeting politique, mais que la personne se dénonce et qu'on s'arrête. Il y a une responsabilité vraiment parce que les élections européennes, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter à chaque élection, ce sera trop tard de pleurer au lendemain des résultats pour dire putain, on aurait pu les mobiliser autrement en parlant de quel est le lien concret entre la vie quotidienne des gens et l'Europe ? Parce que ça existe. Et en fait, il y a aussi un travail de pédagogie à faire. Et comment faire meeting ? Il y a un candidat avec lequel je ne suis pas forcément tout le temps d'accord, mais pour moi, c'est aujourd'hui un des meilleurs en meeting, et c'est pour ça qu'il mobilise autant de monde, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Ouais.
Dans la forme comme dans le fond, en fait, il apporte du fond aussi à ces meetings. Je pense qu'en fait, il faut pas aller très loin dans la révolution des meetings, il faut peut-être juste apporter un peu de fond, tu vois, et avoir des meetings avec des thématiques bien ancrées.
Sur le côté
thématisé,
sur le côté cours magistral.
Ouais, mais peut-être que ça fait vieux prof, peut-être que ça fait chier du monde.
Non, mais ça lui va bien.
Alors, pour le coup, il le fait très bien, et peut-être que ça fait chier tout le monde de rester pendant 2 heures devant Jean-Luc en train de nous faire son petit exposé. Mais la vérité, c'est que c'est celui qui réussit le mieux l'exercice aujourd'hui, dans le fond comme sur la forme.
Claire.
Ouais, pour avoir fait tous les meetings de Mélenchon en 2022, je confirme que, en fait, c'est... je suis pas du coup totalement d'accord avec le fait que toute innovation en meeting et en politique est forcément de l'ordre de l'événementiel ou autre. Je pense qu'il y a des vraies manières de créer des moments politiques forts.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Où en fait on ressent quelque chose de puissant qui se passe et de très collectif.
Le meeting
en fait.
De Jean-Luc Mélenchon sur le vieux port de Marseille, sur les morts en Méditerranée.
Exactement.
Excellent souvenir d'un meeting plein de fond, plein de sens.
Donc
sur
l'eau,
en fait, c'est le fond.
Ben oui.
Voilà. Donc, mais en fait, il faut je pense que la clé, c'est d'avoir un message.
C'était des élections présidentielles.
Oui, mais il faut un message politique de fond. Ouais. Là, en fait, la raison aussi pour laquelle on s'est autant focalisé sur la première partie, bon, c'est parce qu'elle est un peu déconcertante, mais c'est aussi parce que, bon, qu'est-ce qu'on a à retenir d'autre ? Les annonces, les mesures fortes, les messages politiques.
Après,
clés,
c'est parce quoi, qu'on n'a pas écouté
le problème
aussi.
Oui, mais
comme tous les commentateurs, on a vu que la boutique thérapie.
Non, moi je suis allée voir un peu.
T'es allée voir, d'accord.
Et en relief, j'arrive pas à. Il y a eu les mesures de leur programme, etc. Mais c'est pas que
c'est pas un projet de société. En
fait,
ça peut pas
un projet politique, ça peut pas être la boutique thérapie puis une série de mesures. Catalogue qu'on énonce. Il faut quelque chose, enfin une espèce d'architecture et d'horizon politique clair. Et c'est vrai que ce prisme de la douceur, moi je suis vraiment, je pense que c'est un message du féminisme qui est très important de dire les émotions, les corps sont politiques. Mmh. Et ça c'est un acquis. Sauf qu'en fait quand on érige la douceur en absolu, ce qu'on fait c'est qu'on délégitime toutes les autres formes d'émotions politiques.
Et notamment...
Et pardon, mais aujourd'hui, la colère ouais. c'est une émotion politique totalement légitime. Et l'expression de la colère en politique, elle est légitime. Mmh. Et il y a un risque... De jugement classiste aussi dans cette espèce d'absolutisation de en politique ouais, il faut être doux. Enfin, moi je suis vraiment pour qu'on aborde cette question de comment on sort d'une politique qui est basée sur des rapports de domination et des rapports de force constants. Mais à mon avis, ils s'y prennent de manière extrêmement maladroite et pas d'une manière où on peut construire une vision de l'écologie politique et populaire. Quoi.
Sur le catalogue, parce qu'à un moment, je me suis dit que je n'allais pas quand même me farcir le meeting, mais je suis parti voir le site... Je suis parti voir le site de Marie Toussaint. Alors, c'est un très beau site sur la forme. Il y a quelques mesures catalogue, mais j'ai trouvé ça très... pauvre pour un lancement de campagne.
C'est peut-être que le début, j'en sais
mais
rien.
J'espère, c'est ce qu'ils nous promettent sur le site et j'attends la suite. T'as d'ailleurs une petite mention sur la 69, dédicace à Clément Beaune.
Ça aurait pu
oublier ce budget thérapie s'il y avait eu du fond sur lequel on aurait pu débattre derrière, mais même pas en fait.
Puis ça délégitime aussi une forme de radicalité en fait, une forme de radicalité qui est portée par de nombreuses personnes dans la société civile,
par de nombreux écologistes aussi.
Ça délégitime une certaine une certaine radicalité alors qu'on voit bien que il y a pas de mal à être radical, au contraire quoi. Enfin en ce moment je pense qu'il faut l'être. Les enjeux auxquels nous faisons face ne nous permettent pas d'être attendre que quelqu'un vienne frapper à la porte pour faire la révolution. Enfin, c'est pas possible.
On n'a plus le choix.
Et puis en plus, ça délégitime une forme de violence qui est quand même, à mon sens, encore assez importante en fait en politique à ce stade. Pas après, quand on aura fait la révolution, on en reparlera après. Du coup.
On continuera évidemment sur Baxit à suivre de très très près cette campagne des élections européennes. Je vous rappelle que Baxit, c'est une émission qui est financée grâce à vous, grâce à vos dons. Merci, continuez à vous abonner à partir de 5€ par mois. Vous avez accès au VOD en avance pour pouvoir regarder l'émission tranquillement. À partir de 15€ par mois, il y a plein d'événements VIP et surtout, vous avez une carte dans votre portefeuille de membre du club Baxit. Voilà, on vient de les recevoir, donc elles vont commencer à partir dès que j'aurai signé tous les courriers. Donc voilà, n'hésitez pas à participer vous aussi au financement de cette belle émission. Vos financements servent à payer les salaires de toutes les personnes qui fabriquent cette émission chaque semaine. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit jeu à la con ?
Ah bah oui,
allez,
oui.
C'est parti pour le jeu à la con.
Allez.
Alors, le jeu à la con cette semaine, encore le jeu des petits papiers. Hop, tiens, donne ça à Malek.
Yes.
Hop.
On nous éteint les écrans ?
Ouais, il faudrait.
Attends,
Yam, tu peux éteindre les écrans ?
T'as vu, je veux pas tricher.
Mais t'as raison. T'as raison.
Juste en face de moi, je suis.
T'as raison. Merci beaucoup.
Ah, mais.
Okay. Donc, le jeu à la con, vous avez des personnages. Moi, je ne joue pas cette semaine. Hein. Je vous le dis tout de suite, je ne joue pas. Vous avez des personnages et vous devez essayer de deviner qui est votre personnage en posant des questions. Et vous, les gens dans le public, vous pouvez répondre. Et sur votre papier, vous n'avez que les personnages des autres autour de la table.
Yes. Je sais pas qui est au-dessus de ma tête, mais ça m'angoisse. Et vos rires me rassurent pas.
Tu commences ?
Suis-je un homme ?
Non.
Ok, let's go.
Suis-je un homme ?
Oui. Okay. Suis-je un personnage de politique fiction ?
Non, pas de politique fiction.
Bah, ok.
Non.
Ok, je pose une question.
J'ai eu un mandat électif.
Oui.
Ouais.
Ok. Récemment ?
Non.
Ok.
Je crois pas.
je suis un homme politique.
Oui.
Oui.
Je suis de gauche.
Oula.
Oui, flou.
Si c'est flou, je suis macroniste.
Non.
Alors, selon. Enfin, alors, il s'estime de gauche.
Voilà.
Il s'estime de gauche.
Voilà, d'accord.
C'est ça.
C'est une bonne réponse, ça.
Il se définit comme étant de gauche.
Ok.
Du coup, tu peux continuer.
Ah, je peux continuer.
Ouais.
Est-ce que je suis au PS ?
Ouais. Enfin, tu l'es peut-être plus aujourd'hui, mais...
Est-ce que j'ai eu des responsabilités en politique ?
Oui.
J'ai été ministre ?
Non.
Du coup, j'ai perdu. Je...
voilà. Suis-je une femme ?
Non.
Ok. Voilà. J'ai été député.
Bonne question. Député européen.
Ah ouais.
Oui, député européen.
Ok.
Oui,
oui. Député européen. Je suis de droite.
Non.
Eh merde.
T'es déçu?
Non, ça me rassure. Mais...
J'ai été député.
Non.
Non.
Est-ce que j'ai été élu?
Oui.
Oui.
Oh
oui.
Oh oui.
Oh que oui.
Plus pendant mes... longtemps?
Plus d'une fois, oui.
Oh mes aïeux.
Élu longtemps. Suis-je de droite?
Oui.
Oh oui.
Eh ben, dis donc, je pose toutes les cases. Est-ce que je suis Gérard Larcher?
Non.
Ah. Ok.
Ferme ta gueule. Non, non. Pardon, désolé.
En même temps, il y en a 8000, quoi. Je suis un homme politique élu depuis longtemps à droite, quoi. Ouais.
Non, c'est vrai que
je vais y passer la soirée, quoi. Ok, bon.
Ok, député européen. On me confirme ça, député européen?
Oui.
Ok. De gauche?
Ouais.
Oui.
Ok. J'ai été élu. J'ai... membre d'Europe Écologie Les Verts?
Mm-hmm.
Oui.
Ok. Donc, je suis une femme.
Oui.
Oui.
Okay. Eva Jolie.
Ouais.
Oui. Bravo.
Oui.
Jolie. Pour vous aider toutes les deux, sachez que vous avez toutes les deux remporté au moins une fois le prix de l'humour politique.
Oh là là. Ah.
Ça vous aide pas.
Malgré nous.
Ça. Enfin, alors que oui, vous n'êtes voilà. pas les plus fun comme ça, hein, ouais. sur le papier. Hein.
Malgré nous, donc.
Donc, vous m'avez dit, j'ai eu des responsabilités en politique.
Yes.
Mais je n'ai pas été ministre.
Non.
Mais, et je n'ai pas été députée.
Non.
J'ai eu des responsabilités au sein du PS.
Alors, tu as été à la tête d'une motion au sein du PS.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, j'ai oublié ça.
Tu as écrit un bouquin, tu avais fait la une de l'Obs et tout, enfin la totale, quoi, classique.
Mais vous lui donnez trop d'infos, là.
Ah, mais j'y arrive pas quand même.
Mais
hein.
J'en veux autant.
Putain, fallait s'en souvenir qu'il était à la tête d'une motion. Putain, je suis vraiment
et je suis encore au PS.
Alors, aujourd'hui, je ne sais pas.
T'es sorti de la politique.
Ouais, t'es sorti de la politique.
Donc, je suis plutôt âgée.
Ouais. Oh oui.
Un peu, ouais.
J'ai été actif en politique sous Hollande.
Tu t'étais à
la faillite
sur la fin de Hollande.
J'ai essayé de gratter un cabinet.
T'as connu le début du mandat Hollande en responsabilité.
Mais ça, c'est vraiment pas des réponses oui ou non, là.
Ah merde.
Non, mais vous m'avez dit, j'ai pas eu de responsabilité. Si j'ai eu des responsabilités.
Qui fait respecter les règles?
Là, je comprends. Ok.
Désolé.
Bordel.
Ok.
À moi?
Vas-y, Léa. Vas-y, Léa.
Aidez-moi, bordel.
Léa, c'est à toi. Vas-y.
Est-ce que je suis vieux?
Oui.
Oui.
J'étais sûre que j'étais vieux. Est-ce que j'ai été ministre?
Oui.
Oui.
Ouais. Ah.
Et même. Ouais.
Ah oui. Ouais.
Président de la République?
Non.
Non.
Ah oh, merde.
Oula, non.
Ah non.
Ok.
Tu as remporté le prix de l'humour en politique avec la citation suivante: en politique, on n'a jamais fini. Regardez-moi.
Un blagueur, en somme. Hein,
Jean-Pierre Raffarin?
Non.
Non.
Non. Il est en train de chanter du Johnny.
Non.
Pas dispo.
Okay.
Léa, toi, tu as remporté le prix de l'humour politique avec la phrase suivante: le vrai changement au PS, ce serait de gagner.
Claire, du coup.
Claire.
Claire.
Claire, pardon.
C'est très marrant comme phrase, d'ailleurs.
C'est difficile. Hein.
Ah, je crois que
c'est difficile ou c'est. J'y arrive pas.
C'est faut y aller, quoi.
Vas-y, pose des questions. Cherche tes questions.
Mais non.
Ah bah non, t'as.
Moi, j'ai
t'as trouvé.
Moi. Moi, je suis Eva Jolie avec mes petites lunettes, tout va bien.
Oh, je suis vraiment nulle à ce jeu. Je sens qu'à la fin de la saison, je vais être dans les dernières.
Si tu récapitules, Claire.
Alors, j'étais en responsabilité. J'ai pas été ministre, j'ai pas été députée. J'ai écrit un bouquin et j'étais chef d'une motion au PS. Je me suis pas barrée à l'étranger à un moment.
Oh, si.
Ah, mais je suis Valls.
Non.
Non.
Ah.
Ah non, Valls, il a essayé de faire carrière à l'étranger.
Oui, oh. Il a eu des responsabilités, non, on parle de malheureusement.
Vacances. Et puis, non, Valls.
Tout le monde est allé en vacances à l'étranger.
Oui.
C'est nul comme réponse, vous ne l'aidez pas du tout, là.
Non, lui, il est parti sous la coulée de tout ça à l'étranger.
Oui, voilà.
C'est pas faux.
Léa.
Est-ce que j'ai été maire d'une grande ville?
Ouais.
Oui.
Est-ce que je suis Alain Juppé?
Oui.
Ouais. Oh non.
à l'éclair.
Non, mais honnêtement, on y est toute la soirée.
C'est possible.
Un jour, il faudra quand même qu'on nous explique comment on nous attribue les personnages. Parce que je... Voilà, je...
Claire, je te jure, c'est possible.
Tu peux reposer la même question, Claire.
Que...
Est-ce que j'ai été mère d'une grande...
Oh.
Ah, ah. Est-ce que j'ai été mère d'une...
Oui.
Oui.
Il n'y a pas de nom qui me vient en tête comme ça.
Number one.
Number one.
J'étais maire de Paris.
Oui. Mmh.
Maire de... Ah, comment il s'appelle? Oh.
Quand même.
Tu sais celui qui est parti en vacances à l'étranger, là.
Mais doit être...
Vidaloka.
En fait, depuis...
Il est en Tunisie,
non,
à l'heure actuelle.
Depuis que j'ai commencé ma thèse, j'ai des trous de mémoire. Vous voyez,
non, mais je connais, j'ai le même problème que toi.
Genre, et là, je vous... De la
Alors,
Noé.
C'est pas grave,
Bertrand, voilà. De la Noé, bravo. Ouais, bravo.
Et ça revient. Excellent.
Et bravo à tous les trois. Bravo à tous les trois, Malek,
c'est possible, hein.
Eva Jolie.
Attends, pourquoi j'ai pas assis? Attends, je voulais voir le montage quand même.
Juppé, ça te va vachement bien, ça te va super bien.
Moi, je l'ai pas. On a presque la même bouche en fait. Marrant.
Si, derrière là.
Ma teuté, celle d'Eva Jolie, c'est légendaire.
Malek, Eva Jolie, elle a remporté le prix de l'humour politique en 2010 avec la citation suivante: je connais très bien Dominique Strauss-Kahn, je l'ai mise en examen.
Pas mal, j'aime beaucoup.
Elle était légendaire cette phrase.
J'aime beaucoup.
C'est bien ça.
Puis Eva Jolie,
chers
est
amis,
légendaire. Hein.
Nous allons accueillir notre invité politique, le ministre des Transports, Clément Beaune. Mais avant ça, on marque une petite pause et on se retrouve juste après la pause.
Yay!